Bonjour à toutes et à tous, je suis Ludivine et vous écoutez le podcast Human Coders. Alors aujourd'hui, je suis avec Johan Mollard, qui est ingénieur en informatique et robotique, pour parler, vous vous en doutez, de robotique. Dans cet épisode, on est parti du commencement, à savoir qu'est-ce qu'un robot ? On a aussi parlé de robotique collaborative et de ROS, qui est une boîte à outils pour se lancer et programmer ses premiers robots. Enfin, Johan nous a parlé de la compétition RoboCup, qui se tiendra en France à Bordeaux. Alors peut-être que le nom ne vous dit rien, mais vous avez peut-être vu des images de robots jouant au football. Eh bien, c'est l'un des nombreux challenges qui se disputent lors de cette compétition. Très bonne écoute. Alors, première question, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Oui, alors je suis ingénieur en informatique consultant, je m'intéresse à l'art numérique et à l'IoT, et je travaille notamment avec des robots, et je suis ingénieur de recherche à Bordeaux ENP, un groupement d'écoles d'ingénieurs à Bordeaux, pour lequel je fais de la conception de la maintenance de cellules robotiques, la préparation du parc robotique pour les TP d'enseignement, et de l'enseignement robotique dans l'enseignement supérieur.
Super, et du coup ça tombe bien puisqu'on va parler de robots, alors... Bon, je connais pas du tout le sujet. Pour moi, un robot, ça a une tête, des jambes, des bras. Alors, est-ce que tu peux me dire vraiment qu'est-ce qu'un robot ?
Alors, un robot, de manière générale, pour qu'on parte sur la même définition, c'est une machine qui a un ensemble de capteurs, un ensemble d'actionneurs et des programmes. Les capteurs, ils sont là pour percevoir l'environnement. C'est les entrées du système. Donc, c'est par exemple des caméras, c'est des lidars qui donnent... Ce sont des radars qui donnent au robot une notion de profondeur. Ça permet d'avoir des caméras RGBD, par exemple. Des actionneurs, eux, ils vont agir sur l'environnement. C'est eux qui vont modifier l'état d'environnement. Donc, un actionneur, c'est par exemple un moteur, tout simplement, un vérin. Même de la lumière ou du son, ça permet de modifier l'état de l'environnement. Et puis, pour faire le lien entre les capteurs et les actionneurs, on a des programmes informatiques tels qu'on les connaît, classiques, qu'on peut classer en fait en plusieurs niveaux. Ce n'est pas un programme unique sur une machine. Généralement, il y a plusieurs niveaux. Il y a des programmes bas niveau qui vont être niveau microcontrôleur, par exemple, pour les asservissements. Et puis, on a des programmes plus haut niveau qui vont décrire le cycle, le comportement du robot. Et donc, quand on associe ces trois éléments, capteur, actionneur, programme, on peut considérer qu'on a un robot. Ce qui permet, avec ces définitions, en fait, d'inclure... dans la liste des robots, des machines qu'on a dans notre quotidien, comme une machine à laver ou un avion, qu'on soupçonnait peut-être pas forcément d'être des robots d'ailleurs.
D'accord, oui, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, quand tu me dis robot, naïvement je pense à des petits robots qu'on peut voir dans des films ou dans des séries, avec vraiment une tête, des bras et des jambes.
Oui, alors au niveau de la forme, ça dépend un peu de l'application ou du besoin. C'est le besoin qui va guider la forme de la machine. Déjà, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a plusieurs domaines applicatifs. Dans l'industrie, on va avoir des bras robotisés, beaucoup de bras robotisés qui font des tâches notamment de ce qu'on appelle le pick and place, donc ils vont prendre un objet à un endroit, le déplacer, le mettre à un autre endroit pour faire du conditionnement ou de l'emballage. On a des robots terrestres, des robots de maintenance, par exemple, dans la logistique, ou même, je pense au robot Colossus qui a été utilisé l'année dernière pour participer à l'extinction du feu de Notre-Dame. Mmh. On a des robots aériens, on a des drones qui permettent de faire de l'inspection, même des shows artistiques. On a des robots sociaux qui sont eux plus ludiques. Le robot Nao par exemple, c'est une machine assez populaire qui permet de faire pas mal d'interactions sociales. Le robot est humanoïde, on lui parle, il nous répond, etc. C'est plus pour le divertissement. Et on a des robots domestiques qui sont peut-être plus du domaine de la recherche pour l'instant, mais l'idée du robot domestique, du robot de service, c'est qu'il nous aide à la maison pour les personnes âgées, par exemple, dans les tâches ménagères, sortir les poubelles, aller chercher, ranger la maison et faire ce genre de choses. Et donc, sur ces différents domaines applicatifs, évidemment, la forme de la machine va complètement changer. Plus il y a du social dans la boucle et plus on va avoir tendance à privilégier le robot humanoïde, comme tu disais, avec la tête et les jambes, parce que en tant qu'humain, on apprécie en fait cette forme humanoïde, sachant qu'il y a quelque chose aussi qui s'appelle la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange en robotique, c'est assez rigolo, c'est un graphe qui représente en abscisse la ressemblance avec l'humain et en ordonnée la sympathie que nous inspire cette machine qui ressemble plus ou moins à un humain. Et donc on s'aperçoit qu'à 0% de ressemblance avec un humain, bon, la machine ne nous inspire pas vraiment de sympathie, on commence à zéro. On augmente tout doucement, donc par exemple une peluche qui commence à ressembler à quelque chose de presque humain. Elle nous inspire un peu de sympathie, et puis on augmente, et puis on arrive à un pic de sympathie. Et puis juste après, si on augmente encore plus la ressemblance, là on tombe dans une vallée justement, c'est pour ça que ça s'appelle la vallée de l'étrange. On tombe dans une vallée où ça descend complètement et où finalement la machine nous fait peur. Elle ressemble tellement à un humain qu'on est dans un stade où elle nous fait peur. Quand on rentre sur des machines, par exemple, on met de la peau artificielle dessus, ça paraît pas naturel pour nous, être humains, ça nous paraît bizarre, c'est très ressemblant, mais en même temps, on s'aperçoit que c'est une machine, et là, on rentre dans le stade de la peur. Donc sur les machines humanoïdes, on a cette vallée de l'étrange qui fait un pic à un moment, qui augmente tout doucement, plus la machine ressemble à un humain, et puis à un moment, ça fait un trou, donc on évite ce trou.
Ouais, c'est super intéressant, et pendant que tu expliquais et que tu donnais les exemples, je me disais que ouais, effectivement, si j'étais face à un robot qui me ressemblait énormément, ça m'inspirait vraiment pas confiance en fait, ça serait vraiment troublant.
Oui, c'est ça, alors on le voit beaucoup, il y a des chercheurs qui font beaucoup ça en Asie, puisqu'en Asie on a la culture du robot beaucoup plus que chez nous en Europe, et en Asie les chercheurs aiment beaucoup avoir... être quasiment dans cette vallée de l'étrange où on a des machines qui sont très très ressemblantes avec l'être humain. Nous, on est plus pragmatique en Europe, on va plus vers l'utilité de la machine, le besoin premier finalement, aller faire du conditionnement en usine ou des robots sociaux. On est moins sur cette recherche de la ressemblance humaine quand même.
Quand on s'était contacté, tu m'avais parlé de la robotique collaborative. Qu'est-ce que c'est?
Alors, la robotique collaborative, c'est quelque chose qui. C'est un principe de l'industrie 4.0, finalement. L'industrie 4.0, c'est la quatrième grande révolution industrielle, qui est que notre société change de valeur, et donc notre industrie change de valeur également. Il y a quatre grandes valeurs, finalement, à cette nouvelle industrie. La première, c'est l'éco-responsabilité. On fait une industrie qui est plus propre, qui utilise moins de ressources. Une deuxième valeur, c'est le numérique. Le numérique à la fois comme moyen, parce qu'on a besoin du numérique pour superviser l'industrie, avec notamment ce qu'on appelle les systèmes SCADA, qui sont des systèmes qui permettent de suivre tout ce qui se passe dans l'usine, d'aller détecter les anomalies, de les corriger, de faire la maintenance à distance, ce genre de choses, ce qu'on peut imaginer. Mais le numérique est aussi un besoin, parce que les opérateurs qui arrivent aujourd'hui dans l'industrie, ce sont des jeunes opérateurs qui du coup sont nés dans le numérique, qui sont nés avec des ordi, des tablettes à la maison, avec un téléphone dans la poche, et qui ont besoin d'avoir du numérique de partout finalement. Donc le numérique dans l'industrie 4.0, il est là en tant que moyen et même en tant que besoin. Les gens sont à la recherche de numérique. On a un troisième élément qui est le service à l'usager. On est moins dans une logique de production de masse. Les gens veulent plus de la production de masse. Les gens veulent plutôt de la personnalisation. Par exemple, ma Zoé, je vais la vouloir avec un rétro orange et puis un châssis plutôt noir. Je veux vouloir une couture des sièges jaunes, etc. Donc, on va produire du service à l'usager. On va suivre le produit aussi après sa sortie d'usine. Bien après sa sortie d'usine, on va suivre tout le cycle du produit. On va le tracer finalement tout au long de sa vie jusqu'à sa mise au rebut et son recyclage. Et puis le dernier élément, c'est la place de l'humain. C'est peut-être l'élément le plus important. L'industrie sort un petit peu de cette logique qui lui a collé à la peau pendant longtemps, cette logique un peu de fordisme, une logique de performance. Et on se rend compte que l'usine est quand même là au service de l'humain et qu'il faut veiller à sa santé. L'usine est là pour soulager l'humain et pas l'exploiter, entre guillemets. Donc on pense les process industriels autrement et on pense toujours les process industriels avec l'humain au centre. Et la cobotique, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un outil en ce sens. On fait un outil qui est là, qui est collaboratif. Cobotique, ça veut dire robotique collaborative, c'est un mot valise. Et c'est un outil qui est là pour collaborer avec l'être humain, avec une robotique qui, du coup, est déjà moins repoussante, qui est plus sociale, parce qu'une machine, habituellement, c'est très froid. Il y a un bouton rouge qui s'allume pour dire qu'il y a une anomalie, ça bip, on comprend pas pourquoi. C'est assez antipathique pour la nature, finalement, une machine industrielle. Et on pense un peu nos robots pour mieux collaborer avec les êtres humains. Donc, ça passe par une meilleure interaction homme-robot. Et puis, il y a d'autres modes d'interaction aussi. Habituellement, sur un robot industriel, on ne mélange pas. Il y a le monde des robots d'un côté, il y a le monde des humains de l'autre. La raison pour ça, pour séparer ces deux mondes avec des grosses grilles de sécurité, c'est qu'un robot industriel, c'est gros, c'est puissant, ça va vite. Quand il est rentré dans un cycle, on ne veut surtout pas l'arrêter. Potentiellement, il peut faire du mal à l'environnement qui se trouve autour et aux gens qui se trouvent autour. Donc, on sépare par des grilles de sécurité. avec la robotique comme la robotique, ça change la donne. On mélange un peu les deux mondes, il n'y a plus de séparation entre les deux. Les deux interagissent ensemble et partagent le même environnement. Ça déjà, c'est une nouveauté. Ça impose des nouvelles problématiques, notamment amplifier l'usage des capteurs, faire en sorte que la machine comprenne son environnement, l'état de son environnement, qu'elle s'y adapte. Si à un moment je ne peux pas faire un mouvement parce qu'il y a un obstacle, je ne vais pas le faire. Si on m'interrompt dans mon mouvement, plutôt que d'être complètement rigide, je vais prendre un peu de mou, un peu de lest et puis contourner l'obstacle, etc. Puis on peut aller plus loin même dans la robotique collaborative, c'est collaborer vraiment sur des tâches où il y a une vraie interaction du style la machine va porter un moteur qui est lourd, un moteur de voiture qui est lourd, et puis va l'orienter par exemple en fonction de ce que l'opérateur a à faire. Si l'opérateur doit insérer un rivet à un endroit, la machine va le tourner à l'endroit où tu dois insérer le rivet. Ça permet par exemple d'éviter que l'opérateur se retourne complètement, se mette à l'envers pour aller insérer un rivet à un endroit. Ça permet d'adapter le poste de travail en fait à l'opérateur.
Est-ce que tu as des exemples un peu concrets de robotique collaborative?
Par exemple, une tâche qui pourrait être cobotisée, c'est une tâche de rivetage. Quand on assemble des portes d'avion, un avion est plein de rivets. Et on a cette tâche de rivetage où on utilise une riveteuse, qui est une machine qui vient compresser un rivet. Il faut tenir d'un côté, appuyer le rivet, et puis venir frapper le rivet de l'autre côté. Donc il y a une action à exercer sur les deux côtés de la plaque de métal qu'on veut riveter. Et quand on vient rifter, on vient taper le rivet avec une force assez conséquente. Il faut vraiment le pousser, le rivet, pour le déformer et ainsi rifter. Habituellement, c'est des humains qui font ça, c'est des opérateurs humains qui font ça. Et ça a un défaut, c'est que du coup, il y a deux personnes. Il y a une personne déjà qui vient rifter, donc qui vient donner un coup de marteau d'un côté. Et il y a une personne de l'autre côté qui vient subir la force avec un autre marteau, avec un outil. Il vient encaisser la force. Et là, c'est un peu dur pour lui parce que toute la journée, il doit, avec ses bras, pousser contre le matériau et venir encaisser les coups qui sont mis pour rifter. Donc physiquement, c'est un peu difficile comme métier. Et c'est là où la machine permet de soulager finalement cette tâche de riftage. On a besoin de cobotique parce qu'on garde un humain dans la boucle. On a toujours un humain qui vient rifter, qui vient exercer les pressions, parce que ça, c'est possible de le faire et c'est moins physiquement difficile. Par contre, de l'autre côté, la personne qui encaisse les coups, c'est plus un humain, c'est une machine. Et donc on fait en sorte que la machine déplace, elle vienne exercer une pression de l'autre côté du rivet en fonction de là où l'opérateur est en train de rifter. Et là, la machine s'adapte. C'est-à-dire que si moi je rivette à gauche, la machine doit s'adapter et aller exercer une pression sur le rivet de gauche. Si je me déplace à droite, la machine va se déplacer, aller identifier le rivet sur lequel je veux appuyer, etc. Ça, c'est une tâche qui est très collaborative.
Si je suis intéressée par le sujet et que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'on est capable de faire en termes de robotique et aussi robotique collaborative, est-ce qu'il y a des ressources que tu peux conseiller
Déjà sur l'état de l'art, c'est-à-dire là où on en est, la robotique collaborative, c'est quelque chose qui est quand même très nouveau. Habituellement, la robotique industrielle, c'est des machines qui sont du milieu de la machine-outil, qui est un domaine très vieux, hein, qui est apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu besoin très rapidement de produire rapidement, et on s'est aidé de la machine en ce sens, mais ce n'était pas des machines qui étaient spécialement informatisées. Là, on a une particularité, c'est qu'avec l'industrie 4.0, on a nos machines qui s'informatisent, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc on a la composante informatique qui rentre en jeu, et où, du coup, pour nous, développeurs, on a pas mal de travail. Après, là où on en est, la cobotique, c'est quelque chose qui est en développement. On n'a plus ça dans les cartons des labos de recherche ou des labos de R&D des entreprises industrielles. Mais on commence à avoir un état de l'art, des tests qui se font avec des vraies lignes de production qui utilisent des robots, notamment des robots humanoïdes, mais pas que. Ça peut être simplement des bras robotiques qui sont au contact des humains et du coup cobotiques. Mmh. Et donc on y travaille. Et on a depuis plusieurs années des différents outils qui apparaissent et qui disparaissent. Et là, on est en train de converger vers un outil notamment qui s'appelle ROS, qui veut dire Robotic Operating System, système d'exploitation robotique, qui n'est pas à proprement dit un système d'exploitation au sens où on l'entend comme un Linux ou un Windows, mais qui est plutôt un middleware qui est fait pour concevoir des cellules robotiques. Et on va retrouver à l'intérieur, c'est une boîte à outils, où on retrouve à l'intérieur plein d'outils, de services pour créer des robots. On va retrouver des algorithmes d'évitement d'obstacles, par exemple. On va retrouver des algorithmes qui font la fusion de données. Quand on a des capteurs qui disent des choses contradictoires, par exemple un GPS qui contredit l'odométrie. L'odométrie, c'est la mesure de déplacement du robot. On va avoir des algos de machine learning à l'intérieur de cet outil. on a des algos de langage naturel, etc. Donc c'est vraiment un outil qui fournit du service pour une conception robotique.
D'accord. Donc finalement, si moi j'ai envie de me lancer demain...
Oui, je conseillerais moi cet outil parce qu'il est adapté, il est documenté au sens où nous, informaticiens, on l'entend, ce qui n'est pas toujours le cas de la robotique industrielle où ça a été conçu pour une industrie et pas vraiment pour être partagé avec une philosophie open source. ROS est un outil open source et c'est peut-être un des premiers à percer avec cette philosophie open source d'ailleurs. Avec beaucoup de ressources de tutos pour créer soi-même ses propres robots en physique ou en simulation. On fait beaucoup de simulations en robotique parce qu'on n'a pas toujours le matériel à sa disposition et dès qu'on veut rajouter du matériel, ça peut coûter cher. Et on a plein d'outils pour créer des programmes robotiques. Dans le framework, on crée les langages par défaut, c'est du Python et du C++. Après, chaque langage étant une religion pour les développeurs, il y a plein d'autres langages en fait, qui deviennent compatibles avec ROS. Il y en a un qui est en train de percer, c'est le Rust. Mais voilà, en soi, c'est un outil qui est fait pour concevoir des systèmes qui sont hautement concurrents. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de process qui vont communiquer les uns avec les autres en parallèle. On va avoir par exemple un process qui fait du contrôle moteur, qui s'occupe de contrôler le moteur, de faire son asservissement, de vérifier qu'il suit bien la bonne trajectoire et de corriger le cas échéant. On va avoir un process qui va s'occuper de faire de la sûreté, c'est-à-dire de s'arrêter s'il y a un obstacle devant, éventuellement de s'arrêter si jamais il y a un contact, etc. On va avoir un process qui va faire du comportement, qui va décrire le cycle du robot, ce qu'il doit faire. On peut avoir un process qui fait de la vérification visuelle, plus de la vision. À partir des caméras, je traite l'image des caméras et puis j'en déduis où sont placés les objets dans l'espace, par exemple. On peut avoir un process qui fait de l'asservissement. On a plein de process en fait, qui ont un rôle chacun et qui communiquent ensemble, qui s'échangent des messages. Donc on a un système, le système robotique généralement est hautement concurrent. Et du coup, ROS, c'est une ressource que je conseille pour commencer en fait, à mettre le nez dans la partie logicielle de la robotique.
Il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé, c'est plutôt les questions d'InfoSec.
Ouais, alors, on est en train d'informatiser l'industrie 4.0. Ça pose de vrais problèmes d'InfoSec qui, de plus, comme peut-être un peu partout dans la sécurité informatique, est assez négligé. Alors, on distingue, en matière de sécurité robotique, en fait, on distingue la sûreté de la sécurité. La sûreté, c'est la machine qui ne doit pas endommager son environnement. Donc, typiquement, la machine ne doit pas faire du mal aux opérateurs qui se trouvent aux alentours. Donc ça, on sait faire, c'est pas trop un souci. On met des capteurs, on a des arrêts d'urgence, on a des détecteurs, on a des radars qui font barrière, etc. On sait arrêter la machine au moment opportun, on sait contrôler aussi la force de nos moteurs en cas de pression, etc. Il n'y a pas trop de problèmes. Et puis, il y a la sécurité, qui est la sécurité au sens où on l'entend en tant qu'informaticien, l'infosec classique, où on empêche l'environnement d'endommager l'état de la machine. Et notamment, on essaye d'empêcher des pirates ou des utilisateurs malveillants de venir modifier le logiciel du système et modifier l'état de la machine. Et par exemple, des problèmes d'infosec, il y en a eu déjà il y a une dizaine d'années avec Stuxnet aux USA, qui visait des centrales iraniennes et qui ont piraté les automates programmables industriels pour accélérer les moteurs de la centrifugeuse de la machine. Et ainsi, du coup, saboter le système de production iranien. Donc, c'est des vrais problèmes qui sont malheureusement encore un peu négligés, mais je crois qu'on y travaille. Et plus la part du logiciel grandit dans ces machines, et plus, évidemment, il faut accorder une part importante des ressources à l'infosec.
J'avais une autre question, c'est sur le fait de débuter. Donc, il y a cette boîte à outils ROS. Je le prononce bien ?
Oui, Ross.
Ok. On mettra de toute façon les liens et les ressources dans l'article qui encadre le podcast. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux conseiller si on débute, hein, des programmes ou des choses simples en fait à faire ?
Ça dépend si on commence, si on démarre avec du matériel ou sans matériel. Si on commence sans matériel, on va pouvoir tout faire en simulation. Il y a un outil qui s'appelle VConstruct. Qu'on mettra aussi en lien et qui est une boîte à outils entièrement simulée basée sur ROS qui permet de créer des environnements robotiques complètement en simulation. Il n'y a rien à installer en plus, tout est dans le navigateur. On simule les environnements robotiques, on peut simuler par exemple un rover martien. Mm-hmm. Et puis, on va créer son programme qui va permettre de le rendre autonome, de faire la navigation autonome. La machine va devoir s'adapter au sol, va devoir naviguer, va devoir aller effectuer des tâches. Et Deconstruct, c'est un outil qui est bien pour pouvoir débuter en simulation. Après, si on a envie de mettre un peu les mains dans le cambouis et d'acheter du matériel, il y a beaucoup de robots éducatifs qui existent pour commencer à toucher les choses qui sont très concrètes. On a le robot Poppy, par exemple, qui est un robot open source, qui existe en version bras, petit bras, à quelques centaines d'euros. Et puis, en version humanoïde, alors là, c'est un peu plus cher, on va être à quelques milliers d'euros. Mais le robot Poppy humanoïde, par exemple, c'est un robot humanoïde, donc à 25 degrés de liberté, c'est-à-dire 25 moteurs, qui respecte les proportions humaines. Qui ne triche pas sur les proportions humaines. Donc il a deux bras, deux jambes. Et le but du jeu, et un des défis d'ailleurs, c'est d'arriver à le faire tenir debout, parce qu'il n'y a pas d'élément de tricherie qui permet de modifier son centre de gravité ou d'agrandir la taille de ses pieds, ce qui le rendrait plus stable. Ce qui fait qu'au niveau de l'algo qui permet de stabiliser ce robot et de faire en sorte qu'il tienne debout déjà tout seul, et en plus quand on le déstabilise, on le pousse à droite à gauche, ou quand le sol lui-même n'est pas très droit et fait bouger le robot à gauche à droite, il y a un algo ici qui doit gérer la stabilité du robot et qui est un peu tricky à élaborer.
Et donc c'est vraiment toi qui crée l'algo, ou est-ce que t'as des modèles avec des paramètres que tu dois trouver ?
Non, ça dépend. Il y a un état de l'art scientifique de toute façon qui existe au niveau des algos de marche et de stabilité des robots humanoïdes. Donc ça dépend de quoi, sur quoi tu te bases. Si tu vas sur Deconstruct, par exemple, tu vas avoir des tutos qui sont tracés pour toi.
D'accord.
Ça dépend ce que tu veux faire en fait.
Ok.
Ça dépend de ton défi. Pareil sur le robot Ergo Junior, par exemple, qui est un petit bras robotique. Tu vas avoir des tutos qui te disent. En fait, comment tu vas aller ouvrir la pince, aller fermer la pince, faire tes... Ça dépend de ton objectif, en fait.
Ok. Il y a une autre question que je voulais te poser. En fait, je me demande où on en est aujourd'hui. Est-ce que tu as une idée de jusqu'où on est capable d'aller avec des robots, et notamment peut-être des robots humanoïdes ? Est-ce qu'on a atteint certaines limites ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on bute au niveau de la recherche aujourd'hui ? Est-ce que tu as une idée ?
Oui, alors... Déjà, on n'arrête jamais la recherche là-dedans, dans le sens où la robotique autonome, c'est super vaste. Il y a plein de domaines de recherche qui sont à l'intérieur de ça. On va voir à l'intérieur, j'en parlais tout à l'heure, la dimension homme-robot, mm-hmm. c'est-à-dire comment on fait pour communiquer efficacement avec une machine. On va voir la dimension robotique autonome. On a beaucoup d'algo qui vont devoir naviguer de manière autonome, qui vont devoir effectuer des tâches de manière autonome. Repérer des objets, arriver à déjà identifier leur sémantique. Qu'est-ce que c'est si j'ai une poignée de porte à ma disposition ? Ben, je vais devoir repérer que c'est une poignée de porte. À quoi ça sert une poignée de porte ? Visiblement, ça sert à ouvrir une porte, à donner accès à quelque chose d'autre. Donc, il y a une sémantique que la machine doit apprendre. Pour ça, le machine learning est une pierre importante de l'édifice. Il y a de la recherche aussi en matière de contrôle moteur. Il y a des tâches qui sont compliquées. Par exemple, si je dois scier un objet en fonction de la résistance du matériau, je vais peut-être m'apercevoir, moi quand je scie en tant qu'humain, je vais m'apercevoir que tiens, je change de dureté, ça, la scie ne réagit pas de la même manière, du coup je suis probablement en train de changer de matériau et c'est peut-être normal ou anormal. Et là, c'est le moteur en fait, qui perçoit les vibrations, qui perçoit la réaction normale ou anormale au niveau du mouvement, de la résistance, de la vitesse et de la force. Et il y a des algos qui sont spécialisés dans l'asservissement et qui vont devoir s'adapter. Donc il y a plein de domaines comme ça qui sont encore des domaines de recherche. Si on parle de la robotique industrielle, ces domaines-là n'ont pas encore vraiment percé. C'est que des tests qui sont faits. On n'a pas encore vraiment de vraies productions qui utilisent de la cobotique ou des robots très informatisés, autres que des machines qui font du déplacement ou du conditionnement.
Et du coup, bon, tu l'as mentionné plusieurs fois, est-ce que si on se lance dans la robotique, là, pour s'amuser, est-ce qu'on a besoin d'avoir des connaissances importantes en machine learning ?
Non, pas du tout, parce que la machine learning, c'est une des pierres de l'édifice, mais il y a plein d'autres choses. La machine learning va beaucoup s'appliquer, notamment quand on va faire de la vision, c'est-à-dire analyser l'image de caméra, aller repérer des objets, soit pour repérer des défauts, soit pour identifier la sémantique des objets, identifier ce que c'est une poignée de porte, comme je disais tout à l'heure, par exemple. Mais il y a plein d'autres choses, en fait, où il y a du travail, finalement, où on n'a pas besoin de machine learning. Aller faire du contrôle moteur et arriver à trouver un algorithme, par exemple, qui scie, ce que je disais tout à l'heure, ça, on ne va pas forcément utiliser du machine learning pour ça, mais il y a quand même du défi. Ou trouver des machines qui font de l'évitement d'obstacles à partir d'un ensemble de points qui représentent les obstacles, qui représentent les points de passage sur lesquels la machine doit passer. Il y a des algos qui ne sont pas forcément basés sur du machine learning.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, est-ce qu'un robot est capable d'analyser des émotions ou des réactions humaines ? Est-ce que tu sais
Oui, il y a des choses qui sont faites en ce sens, où on va aller repérer les différentes formes du visage et les petites caractéristiques que nous, on transmet quand on est plutôt joyeux, plutôt triste. Et il y a des gens qui peuvent faire ça, et ça peut être implémenté sur des robots sociaux. Oui, potentiellement, il y a de la recherche qui se fait là-dessus. Ouais.
Le dernier sujet que je voulais aborder, c'était la Robocop. Il y avait une édition cette année, mais qui malheureusement va être, je pense, peut-être annulée. Enfin, tu vas nous en parler.
Alors, la Robocop, c'est la compétition mondiale de robotique et d'intelligence artificielle qui est la plus grande compétition de robotique et qui a lieu une fois par an dans un pays différent chaque année. Et en l'occurrence, là, en 2020, on devait l'avoir, finalement, elle est annulée pour cause de crise sanitaire, mais on devait l'avoir pour la première fois en France depuis 20 ans. C'est une grande compétition qui rassemble 5000 chercheurs. L'idée, c'est de faire avancer, progresser la robotique, avancer la recherche, et sur tous ces domaines de contrôle moteur, d'autonomie, de machine learning, etc. Et du coup, ça s'illustre en pratique par plusieurs ligues. Il y a plusieurs ligues. Il y a par exemple la ligue de foot, la ligue robotique domestique, la ligue logistique. Il y a même une ligue junior pour que nos petite tête blonde aussi s'entraîne à programmer des robots et à leur faire atteindre des objectifs. Et par exemple, la Ligue Foot, donc on fait vraiment, les roboticiens s'affrontent vraiment à créer des équipes de foot. On demande souvent pourquoi jouer au foot, à quoi ça sert dans la vraie vie des robots qui jouent au foot. En fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est la difficulté de faire une machine qui joue au foot.
Oui, parce qu'en fait, tu dois aussi identifier donc, les joueurs qui sont avec toi, les joueurs adverses.
Oui, c'est ça. Il y a une partie d'analyse de l'environnement, il y a une partie de où sont les adversaires, où sont mes coéquipiers, où est la balle. Et en plus de ça, il y a des problématiques qui sont de base déjà présentes dans la robotique, qui est du contrôle moteur. Il faut arriver à mettre un kick dans un ballon, taper au bon endroit, il faut arriver à se positionner au bon endroit par rapport au ballon, il faut marcher sur un terrain qui du coup est un terrain certes synthétique, mais quand même une pelouse. Ce qui est quand même beaucoup moins stable que d'avancer ou de rouler sur un sol lisse. Il y a des problématiques de vision, il faut repérer où sont les cages, où sont les lignes. Et l'idée, c'est d'arriver à avancer en fait, sur ces différents éléments qui vont utiliser des briques différentes, des briques technologiques complètement différentes.
Alors, du coup, est-ce qu'il est trop tard pour encore participer et comment ça se passe ?
Alors, participer, comment ça se passe ? Ça se fait. C'est quand même un peu, la marche est un peu haute quand même pour commencer, il faut bien connaître la Robocop avant de se dire qu'on va participer, mais l'idée c'est que ça marche, au tout début on publie un papier scientifique qui indique, voici là où on en est, l'idée c'est que vous avez déjà en fait travaillé sur vos robots, et qui indique là où vous en êtes, quelle est votre architecture à la fois matérielle, à la fois logicielle, qu'est-ce qui est nouveau dans votre robot par rapport à l'état de l'art des autres robots, des autres équipes de la compétition. Et votre papier scientifique, il va être jugé par un jury qui va faire la sélection finalement. Donc c'est pas, je peux pas du jour au lendemain en fait m'inscrire comme participant à la Robocup. Il y a une certaine marche à l'entrée, mais des nouvelles équipes se créent chaque année.
Et du coup, bon, j'imagine qu'il y a un caractère très international, des gens qui viennent du monde entier. Est-ce qu'on peut être spectateur ?
C'est complètement ouvert au public. Il y a tout au long de la Robocup des événements ou des animations qui sont dédiées au grand public pour vulgariser la robotique, pour faire de la médiation autour de la robotique ou des sciences du numérique en général. Mm-hmm. Il y a aussi des ateliers pour les juniors. D'ailleurs, la Robocup junior est aussi une des ligues, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des équipes de juniors qui viennent participer avec leurs profs. Ils ont travaillé tout le long de l'année à concevoir leurs robots. Donc c'est vraiment ouvert à tout public, on peut observer, on peut manipuler un peu aussi parce qu'il y a beaucoup d'ateliers et c'est très ouvert.
Est-ce que l'édition donc, de cette année sera reportée en France l'année prochaine ?
Oui, c'est ça. Donc la RoboCup 2020 aura lieu en 2021 et elle aura lieu en France à Bordeaux.
Pour conclure, est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais faire passer ou des informations que tu aimerais partager ?
Pour les développeurs, en tout cas, il y a beaucoup de, il y a une part importante de la robotique qui s'informatise et qui du coup nécessite, un peu comme tous les champs de toute façon, nécessite des développeurs et beaucoup de ressources informatiques. C'est un domaine que moi j'apprécie beaucoup parce que on sort un peu du logiciel pur et dur, on a une interaction physique avec des machines. On a quelque chose qui devient très concret par rapport à un programme classique où on a des choses qui s'affichent sur un écran. On a une machine qui bouge au final. C'est pour ça d'ailleurs que la robotique est un outil super pour l'éducation aux sciences du numérique. Quand je découvre ce que c'est un langage de programmation, bah finalement, au bout, l'objectif, c'est de faire bouger un robot. Donc c'est plus attrayant en fait pour le grand public et aussi pour débuter. Donc c'est un bon outil pour l'éducation.
Ok. Super, bah écoute, merci beaucoup Yoann.
Ben merci beaucoup à toi et à vous tous de nous avoir écoutés.
Un grand merci à Yoann qui nous a partagé sa passion pour la robotique dans cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les ressources citées sur le blog humancoders.com. Et si jamais vous passez à la RoboCup en 2021, n'hésitez pas à faire coucou à Yoann, il y sera. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et le liker sur les différentes plateformes de diffusion. À très bientôt.